Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Extra. Nous sommes le mercredi 13 mars et à mes côtés, il y a dans le studio Jacques Monclar. Bonjour coach.
Bonjour Nico.
Et Xavier Vossion. Salut Xavier.
Salut.
Bonjour Xavier. Bonjour à tous.
Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des Mavs et de Luka Doncic. Les Mavs qui stagnent à la 8e place de la Conférence Ouest. On se posera une question. Est-ce que Luka Doncic et Dallas peuvent vraiment mieux faire? On parlera ensuite de DeMar DeRozan. Gâche-t-il sa fin de carrière aux Bulls à 34 ans? L'arrière a encore beaucoup à donner, mais pas sûr que ça soit à Chicago pour ces prochaines années. On parlera ensuite de Jamal Murray qui monte en puissance, tout comme Denver qui est revenu au sommet de la Conférence Ouest à égalité avec le Thunder. Et puis en fin d'émission, on parlera un peu des blessures qui changent cette fin de saison. Petite virgule, et puis on démarre.
3 secondes, 2 secondes.
Luka Doncic et Dallas peuvent-ils mieux faire? 8e de l'Ouest, 37 victoires, 28 défaites. Dallas a-t-il déjà atteint son plafond avec cet effectif? Parce que Luka Doncic rayonne, Luka Doncic enchaîne les triples-doubles, les gros matchs. Et pourtant, eh bien, les Mavs sont toujours dans ce ventre mou de l'Ouest, dans le play-in, mais sans qualification directe en play-off. Xav, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Dallas? On a l'impression que chaque année, on se répète. Luka Doncic est extraordinaire, mais à côté, ça ne suit pas vraiment pour être au top à l'Ouest.
C'est vrai que c'est assez décevant, finalement. Les Mavericks, je ne vais même pas parler depuis le début de saison, parce que pour moi, l'équipe c'était théoriquement renforcée avec les arrivées de Washington et Gafford particulièrement, où ça vient vraiment enrichir un effectif. Et effectivement, les résultats restent trop moyen par rapport à ce que je pensais être leur réel potentiel. Il n'en reste pas moins que la Conférence Ouest est extrêmement relevée. Donc, dire du mal des Mavs, ce serait dire qu'ils sont moins forts que les autres, peut-être, mais le niveau est vraiment relevé. C'est ça qui me... Mais ils n'ont pas progressé. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Alors oui, Doncic est incroyable. Ça c'est absolument indiscutable. Je ne comprends pas où est le problème. Le problème, bon, il vient aussi de la défense. Jason Kidd en prend un peu plein la tronche parfois, mais c'est surtout de l'irrégularité qui me surprend, qui me déçoit. Et très honnêtement, je ne sais pas du tout où ils vont aujourd'hui, quoi. Maintenant, j'aimerais pas 10 en 8e vers le play-in. J'aimerais pas être le premier qui va les rencontrer en play-off non plus. Mais aujourd'hui, ouais. Il y a plus de questions que de réponses, quoi.
Coach, ils vont où les Mavs?
Alors, faut voir d'où ils sont partis. Hein. Une équipe à la dérive avec Kyrie Irving et Luka Doncic qui renonce à la fin de saison ou à qui on fait renoncer la fin de saison. Un flou artistique. Bon, moi, je trouve que... Alors oui, ils sont 7-8e. Ils sont à quoi? Un match et demi des playoffs. Ils sont pas très très loin des Clippers non plus.
Ils sont à portée de tir des Pelicans qui sont cinquième. Oui,
c'est
pas.
Est-ce que Clippers, c'est attention, ils risquent de descendre aussi.
Voilà. Donc, est-ce que c'est pas leur niveau cette année? Moi, je trouve qu'il y a une progression quand même. Après, que ça soit suffisant pour être champion, non. Que Luka soit exceptionnel, oui. Alors, on va faire. Amusez-vous à faire le compte de balles qu'il shoote, qu'il utilise pour faire des passes d'ess, qu'il utilise à son, comment dire, à contrario, pour avoir des pertes de balles.
Quasiment 4 pertes de balles par
match. Voilà. Rajouter le nombre de balles utilisées par Kyrie Irving, quand il est là, dans le même registre. Et vous vous dites, est-ce que c'est facile de jouer, et particulièrement pour les extérieurs, avec ces gars-là? Voilà, je pense qu'il y a une bascule. On en parlerait peut-être avec Milwaukee, si on parlait de Milwaukee aujourd'hui. Tout le monde, Giannis, n'arrête pas de nous seriner avec le jeu à deux. C'est important le jeu à deux, mais on ne gagne pas à deux.
On joue à cinq, a priori.
On joue à cinq, ouais. Et on gagne à cinq, et plus. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait une répartition différente. Alors, dès que Big Men s'en sortent, type Daniel Gafford, un, parce qu'il a de la qualité, deux, parce qu'avec Lively, ça fait deux mecs qui cavalent de cercle à cercle, et c'est bien. Hardaway joue avec ce qu'il a, et la balle lui brûle les mains quand il l'a. Et puis, c'est un peu pareil. Et pour PJ Washington, eh ben, il y a des jours on et des jours off, parce qu'il ne contrôle pas ce qu'il fait, parce que le génie de Luka Doncic n'est pas un système référence, parce que c'est difficile de jouer autour de gars comme ça. Et il faut les trouver. Des mecs qui arrivent à jouer pour un titre, en étant role-player quasi exclusif.
Il y a toujours un peu cette question autour de Luka Doncic, c'est est-ce qu'il en fait trop, est-ce qu'il partage assez la balle, ou est-ce qu'il est obligé d'en faire autant parce qu'à côté ça ne suit pas. Enfin, c'est un équilibre qui est très difficile.
C'est un débat qu'a eu Jordan en son temps.
Ouais.
Mais c'est un débat qu'on a eu avec James Harden aussi à une époque à Houston.
Différemment de Jordan, mais oui.
Oui, non, oui, bien sûr. Mais c'était un peu la même question qu'on se posait à un moment avec les Rockets, qui étaient totalement centrés autour de Harden. C'est un peu la même chose avec Doncic, mais...
Bah, ça doit être l'air du Texas.
Peut-être, c'est le ouais. Texas, peut-être, qui fait ça.
Qu'elle est dans l'Illinois, ça marchait mieux apparemment là-bas. S'il en faisait moins, je ne sais pas où ils en seraient non plus. Hein. J'en ai aucune idée. Moi, je vois qu'il a un nombre de passes décisives conséquent. C'est donc qu'il donne le ballon, c'est pas qu'il force. Il a le talent pour. Donc je pense que si on dit qu'il en fait trop aujourd'hui, je serais inquiet s'il en faisait moins, en fait. Maintenant, est-ce que la répartition est bonne entre lui et Kyrie Irving? Je ne suis pas sûr. Est-ce que finalement ce duo fonctionne? J'en suis pas sûr. En vrai, je suis sûr de rien avec les Mavericks. J'aime beaucoup cette équipe. Mais.
Elle est sympa.
Ouais, mais très honnêtement, je suis perdu.
Je te rejoins sur un truc, c'est que je ne veux pas les jouer en play-in, match sec, même à la maison.
Oh non.
Parce que le génie, Luka, Kyrie, bon, il y a des jours off, mais il y a des jours on. Et les jours on, t'en prends 20. Voilà, c'est réglé. Ils ont déjà. Luka, par rapport à ta question première, finalement, l'idée, c'est. Oui, moi je trouve que c'est un ordinateur de basket, j'en suis même à me dire c'est lui le MVP. Donc tu vois où j'en suis, même si jusqu'ici je pensais que c'était SGA ou Nikola Jokic, là je trouve que c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Incroyable, mais c'est lui qui doit se poser la question, parce qu'au bout du bout, quelles que soient ses statistiques, c'est quoi son but ?
C'est de gagner.
C'est de gagner. Donc c'est lui qui aura qui va trouver ou pas, je lui souhaite de trouver, la manière de gagner. Voilà. Et c'est vrai que l'équipe est sympa.
Justement, le profil Kyrie Irving, est-ce que c'est vraiment un joueur adéquat à mettre aux côtés de Luka Doncic, même si j'ai l'impression que depuis le début de sa carrière, on n'a pas trouvé le joueur.
Kyrie a trouvé refuge un peu au départ à Dallas, avec, je crois, il s'appelle Nico Harrison, le GM, qui est le gars qui s'occupait de lui quand il était en contrat avec le Swoosh, avec Nike. Je sais pas, on refait pas l'histoire. En tout cas, en l'état, ça pose, oui, c'est une. À la fois une progression d'être là où ils sont, même si c'est l'hypothèse basse de leur saison. La 8e place, ils ont plutôt été entre 4 et 7 qu'à la 8e. Mais ça pousse derrière avec les Lakers qui ont un super calendrier s'ils l'assument à la maison. Les Warriors qui ont 2 matchs en moins et qui sont toujours capables de tout. Et puis devant, ça galope avec les tranches volatiles, avec des équipes comme ça. Et Phoenix, bien sûr, qui maintenant se retrouve avec le trio majeur. Donc la situation est... Comme dit Xav aussi, à l'ouest, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie.
Alors, on va passer à l'est. On parlait de Luka Doncic, le joueur de la semaine à l'ouest. C'est DeMar DeRozan qui a été élu nommé joueur de la semaine à l'est. Chicago, qui est un peu, alors pas exactement dans la même situation que Dallas, mais en tout cas dans les mêmes eaux, à la 9e place de la conférence est, mais avec un bilan négatif, 31 victoires pour 34 défaites. Et DeMar DeRozan, à 34 ans, qui est toujours le meilleur marqueur des Bulls, 23 points par match, toujours aussi clutch dans le Money Time. Mais bah, Chicago n'avance pas et DeMar DeRozan, est-ce qu'il ne gâche pas un peu ses dernières belles années dans une franchise qui stagne largement là, depuis plusieurs saisons maintenant? On parlait de l'ère de l'Illinois, Xav, là. L'ère de l'Illinois, ça ne marche pas trop pour DeMar DeRozan.
Moi, je trouve que déjà, Chicago fait une saison qui est très respectable par rapport à ce qu'ils ont été et ce qu'ils auraient pu être. Finalement, ça aurait pu être bien pire. Que DeMar DeRozan est très digne là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est l'histoire de sa carrière. Il a sauté de Toronto, un an après Toronto est champion, parce que bon, bah, finalement, ils ont préféré faire sans Kawhi Leonard, qui s'est retrouvé, avec justement Kawhi Leonard, mais sans DeMar DeRozan, qui s'est retrouvé perdu à San Antonio. En faisant des trucs, c'était compliqué un petit peu au début. Greg Popovich a réussi à le relancer et il a fait des trucs assez incroyables avec les Bulls. Il était dans une équipe qui, à une époque, lorsque Lonzo Ball était là et cartonnait avec Zach LaVine, où les Bulls commençaient à vraiment devenir une équipe très intéressante. Souvenez-vous de ce mois de janvier incroyable, où ils gagnaient tout. Et là, on se dit, ça y est, il se passe un truc à Chicago qu'on n'a pas vu venir. Plus le Vooch, hein, bien sûr. On va pas l'oublier. Dosunmu qui progresse, Kobe White qui est incroyable en ce moment.
Kobe White qui prend une vraie ampleur à la même.
Mais... c'est compliqué, c'est quoi, je sais même pas où il en est contractuellement.
Mais justement, c'est DeMar DeRozan, c'est qu'il sera libre de partir à la fin de la saison, il sera free agent cet été, DeMar DeRozan.
Il doit clairement intéresser du monde, bien sûr. Est-ce que une équipe comme San Antonio est pas capable d'aller le rechercher, par exemple? Ils ont besoin aussi d'un joueur comme ça. Beaucoup d'équipes ont besoin d'un DeMar DeRozan, mais DeMar DeRozan à Dallas, tiens, aujourd'hui, il pourrait faire des trucs, hein. Maintenant, ce sera lui de faire les bons choix, mais c'est, même à 34 ans, c'est vrai qu'il pourrait intéresser beaucoup de monde. On verra ce qu'il a comme proposition. Est-ce que c'est le chèque qui va primer? Est-ce que c'est la gagne qui va primer? J'en sais rien. Je pense que le meilleur compromis, c'est là où il ira. Mais je voudrais le voir effectivement dans une équipe qui peut redevenir contender. Pourquoi pas? J'ai du mal à y croire quand même.
Il y a des équipes, Jacques, qui pourraient. Enfin, est-ce que on est une équipe?
Bon, si on reprend sa carrière. On le voit maintenant, mature, en contrôle, qui a fait le tri entre 3 points et 2 points, qui joue ses points forts, qui fait même des passes, qui fait des... Ça n'a pas toujours été comme ça.
Non.
C'était un joueur un peu brut de déco. Alors, il y a plusieurs sinistres dans sa carrière. Le premier, il s'appelle LeBron James, comme à peu près tous les Toronto Raptors de cette époque-là.
Le Bronto.
Ils ont été martyrisés par LBJ. Le deuxième, c'est ce transfert qui lui tombe sur la tête et dans l'enchaînement, Kawhi et les Raptors sont champions NBA. À la moulinette Popovich, ça lui a fait le plus grand bien. Je pense que ça l'a beaucoup maturé en termes de joueur, parce que je répète, il était vraiment brut de pomme. Hein. Dans la pose de dribble, dans les lectures, même défensivement, il était capable de contrer, mais il faisait des écarts. Enfin bref, il n'était pas fini. Et là, moi, je le trouve très fort, surtout quand il n'y a pas que Zach LaVine, parce que jouer avec Zach LaVine, même si c'est difficile pour lui, ça lui a permis encore plus de trier son jeu par moment. Et puis surtout, il a franchi un cap l'année dernière quand il a fait ses buzzer beaters en rafale. Là, il a eu un mois de folie. Ça l'a amené au All-Star, ça a amené plein de choses. C'est un joueur qui a un statut qui pourrait rendre service à toutes les équipes qui veulent ajouter un joueur pour aller au titre, ouais, à
c'est,
mon avis.
C'est le type de joueur qu'une équipe pourrait tenter pour...
Xavier a parlé de Dallas. Mais le Onyx.
C'est vrai. Ah oui, bien sûr. Mais il y en a plein. On peut les prendre les unes après les autres. Je dirais pas les Clippers pour le coup, parce que sur ce poste-là, il y a ce qu'il faut.
Ni Miami.
Ni Miami, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut aussi.
Voilà. Mais il y en a beaucoup qui sont à un joueur et demi, deux joueurs d'être champion. Il peut faire partie des joueurs qui te font basculer dans la bonne partie de la colline. C'est-à-dire celle qui descend.
Parce... Ouais, celle qui descend vers le trophée. Jamal Murray maintenant. Alors ça, c'est un cas assez à part parce que Jamal Murray, il a manqué quand même déjà 16 matchs cette saison. Et en fait, quand il est là, on se rend compte évidemment, logiquement, que c'est tout de suite beaucoup plus facile pour Denver, qui vient de revenir à égalité avec le Thunder en tête de l'Ouest, 45 victoires et 20 défaites, 9 victoires sur les 10 derniers matchs pour les Nuggets. Et Jamal Murray, on parlait du point de bascule DeRozan dans d'autres franchises. Jamal Murray, c'est vraiment le point de bascule pour Denver. Quand il est là, en fait, on se rend compte que le champion en titre, il a une gueule d'équipe qui pourrait largement aller au back-to-back.
Ah bah ça, il y a zéro doute. Jamal Murray, c'est un All-Star qui n'a pas été sélectionné.
Jamais.
C'est un All-Star.
Jamal, pas jamais.
c'est un All-Star en play-off, en fait.
C'est un mec. Le pire, c'est que on n'a même pas parlé d'un. Nous, on l'a un peu évoqué, mais le snub a même pas été véritablement cité. On a parlé beaucoup de Mantas Sabonis. Évidemment, c'est logique. Il y en a beaucoup qui parlent d'Aaron Fox. Les gars, vous oubliez Jamal Murray. Jamal Murray est un joueur assez extraordinaire. Qui est champion NBA. De toute façon, c'est ce qui est le mieux. Hein. Je pense que All-Star s'en fout tant qu'il est champion NBA et qu'il a contribué plus que largement. C'est un membre évidemment capital, pas le membre capital. C'est vrai que quand il est là, c'est mieux. Quand il n'est pas là, c'est moins bien. Ça, c'est une logique. Mais t'enlèves Jokic, bon, ben là, c'est...
Oui, c'est, la...
c'est pire.
Vous avez raison de dire ça. Il n'est pas la bascule, la première bascule. Oui, c'est le triple-double sur patte avec basket rose. Basket rose, la panthère rose en triple-double. C'est Nikola Jokic.
Et Jokic, il est toujours là, alors que Jamal Murray, parfois, il manque les problèmes souvent.
Mais c'est sûr, c'est sûr. Si t'as un Jamal Murray à 100% en playoff, pour moi, et je le dis depuis le jour 1, c'est Denver qui est favori pour retourner en finale NBA. Même si je pense qu'ils sont un poil moins forts que l'année dernière de par le banc.
Le départ de Bruce Brown, il a changé beaucoup de choses.
Jeff Green, faut pas l'oublier, ouais, non plus. Mais tu as totalement raison avec Bruce Brown. Même s'il y a des joueurs qui ont progressé, hein, Reggie Jackson qui jouait plus, qui a joué et qui a fait des bonnes choses aussi.
Peyton Watson.
Sens de Peyton Watson aussi
Magic
qui a progressé.
Qui apporte des choses.
Absolument. Donc il se retrouve aujourd'hui à lutter pour la place de numéro 1, c'est tout à fait logique. Pour aller plus loin, par rapport à ce que tu disais, j'imagine que si tu me dis qu'il a raté 16 matchs, s'il en avait raté que 6, il serait sans doute premier.
C'est ça.
Et c'est totalement ce que je pense.
7 défaites, 7 défaites sur les 16 matchs manqués par Jamal Murray.
C'est totalement
donc,
ce que je pense.
Forcément, ça pèse dans le bilan.
Mais oui, c'est, de toute façon, c'est une des pièces maîtresses absolues pour gagner un titre NBA, ouais, bien sûr.
Et puis, c'est, historiquement aussi, il faut toujours regarder, c'est un joueur qui joue de manière très physique et qui a eu des gros pépins, qui a eu une rehab l'année dernière, il y a deux ans, qui a été longue et qui lui a coûté, qui l'a déterminé. C'est un avion de chasse physique comme on a rarement vu.
Mais il s'est fait les croisés une fois ou deux fois, j'ai un doute.
Non, il a eu une rallonge de rééduc, ouais. Parce qu'il y a eu une infection.
Ouais. Et on était très, très, très inquiets qu'il revienne à un bon niveau. Tu parles.
Il est dans un registre aussi particulier de meneur, parce que c'est un meneur de jeu à qui on ne demande pas obligatoirement de faire des passes décisives, parce que dans son équipe, c'est le pivot qui a cette lecture la plus importante. Donc, mais physiquement, c'est un monstre. C'est effectivement un All-Star qui n'est pas All-Star sans que personne s'en émeuve. Son petit frère s'appelle Jrue Holiday, qui est un All-Star sans être All-Star, sans que personne s'en émeuve. Mais ça, ce sont des joueurs trop complets. On peut rêver d'ailleurs... S'ils se retrouvaient en finale de cet affrontement-là, qui serait pour le moins assez, pas obligatoirement en bugne à bugne, mais dans leur capacité à attaquer sur tout le monde, là c'est Jamal Murray, et dans la capacité à lockdown tout le monde, ça c'est Jrue Holiday. On le verra peut-être pour Canada-États-Unis aux Jeux Olympiques s'il a lieu. Mais voilà, Jamal Murray c'est peut-être... À partir du mois de février jusqu'à fin juin, il est dans le top 10 des joueurs NBA et peut-être même dans le top 6-7. Il est déterminant. Son duo avec Nikola Jokic, c'est l'eau et le feu. C'est un truc de fou, quoi. Ces deux-là, et puis ils se connaissent bien, ils jouent depuis longtemps ensemble, ils ont une histoire. Lui, quand le physique va et qu'il met un peu de dents externe, défendre son Jamal Murray, pénible. Pénible, pénible.
Et vraiment, à l'image de Denver, c'est un joueur qui reste sous les radars. On a assez peu parlé de Denver, finalement, cette saison, parce qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent au moins aussi bien. Ils ont navigué entre la 3e et 4e place. Et là, juste quand ça commence vraiment à compter et qu'il faut bien se placer, bah, comme par hasard, ils arrivent à être au niveau de la première place de la conférence.
C'est ça, c'est une équipe qui se veut être la meilleure à la fin. Au début de la saison régulière, c'est pas trop, trop leur affaire. Ça, c'est logique pour un champion en titre, ça relance tranquillement. Ils savent très bien que le championnat, tu ne gagnes pas au mois de novembre, de toute façon. Ils connaissent leurs forces, il fallait progresser sur d'autres aspects, à commencer par effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, les joueurs de banc. Et tous les noms qu'on a cités, c'est des mecs qui ont progressé au fur et à mesure de la saison.
Ouais, ouais, tu peux rajouter aussi qu'il en tirera peut-être une fois 10 minutes, 12 minutes de DeAndre Jordan. Alors c'est vrai que Jeff Green, j'étais le premier avec Zav, on était vraiment... Oula, Bruce Brown et Peyton et Jeff Green partis, ça fait du mal. Sur le terrain, dans le vestiaire, dans le mental, dans plein de choses. Christian Brown a un peu plafonné. Reggie Jackson est redevenu le joueur pétard ambulant, alors avec ses bons et ses mauvais jours. Peyton Watson a une vraie dimension physique de cercle à cercle. Nagy peut défendre 2-3 positions, plutôt 2 d'ailleurs, et jouer dans la raquette aussi, au relais du joker. Ils ont rebâti, enfin là c'est Michael Malone, ils ont rebâti quelque chose d'intéressant pour... en ce moment, avec ce qui arrive à OKC, avec Minnesota, même si Anthony Edwards est très énervé, ils font figure de numéro 1. Ce qui arrive aux Clippers, ils font figure de numéro 1, bien sûr.
Et c'est une équipe, Jacques, qui est aussi très difficile à manœuvrer parce que c'est une équipe déjà qui joue assez grand, qui est très physique. Et quand vous avez dans Gordon. Le 5 de départ, Jokic, Gordon, Porter, Jamal Murray, en fait, on l'avait vu d'ailleurs tous les playoffs la saison dernière.
Les progrès de Gordon dans le basket, les progrès de Porter dans le mental, la résurrection, mais c'est pas la première de sa carrière, de Reggie Jackson, plein de choses sont à mettre au crédit de à la fois Michael Malone, mais aussi des deux leaders. Parce que quand une équipe va bien, que Caldwell Pope va redevenir un joueur important, ce qu'on oublie aussi souvent en saison régulière, mais dont on se rend compte en play-off, c'est une équipe qui est organisée. Donc bravo au staff et bravo aux deux leaders, à Murray et à Jokic. Ça, c'est important. C'est important. Voilà. Le grand tout mou, tout rose avec ses baskets, hormis perdre contre le cheval de Xavier Vaution dans certains...
on l'a battu une fois, il nous a battu une fois.
Voilà, ils sont un partout. Ils montrent quand même... alors peut-être que dans le travail, et même sûrement, on le sait un peu, il a parfois un peu un poil dans la main. Autant quand le match commence... C'est un chien aussi, hein, comme les autres. Hein. Et cette année, il a montré qu'il pouvait se faire expulser, il a montré des gestes d'humeur, il se fait respecter, il fait de l'humour, il est vraiment à maturité. Hein.
Et puis, de plus en plus malin. T'as vu l'histoire des lacets aussi ? Ouais. C'est un génie. Le mec fait semblant de faire ses lacets pour que les coachs aient le temps de regarder l'action pour faire un challenge. C'est un génie.
Ah, je l'avais pas vu passer ça.
Ah, c'est fantastique. C'est fantastique. Il l'a fait plusieurs fois. Rappelle-moi
où il a appris le basket.
Bah voilà.
Je sais plus.
Très très malin, j'adore ça.
On termine par les joueurs, enfin les blessures.
Ou alors, pardon, petit. Hein, vas-y, ou alors, il a vu jouer Laurent Sierra.
Ça, c'est vrai, ça. Celui de Jason Kidd qui avait fait semblant aussi, enfin le coup du gobelet de Jason Kidd.
Oui, mais là il s'est fait serrer.
Oui, là il s'est fait avoir.
Mais il s'est fait serrer, mais enfin il a pris l'amende après. Mais sur le moment, je crois qu'il a eu le temps mort technique parce qu'il fallait nettoyer le parquet. Ouais, c'est ça.
J'aurais pu cracher aussi, ça aurait été plus.
Ouais, ouais, mais c'était drôle. Franchement, ça, ce moment était assez incroyable, digne de Jason Kidd. On va parler, pour finir, des blessures, des joueurs blessés qui changent un peu cette fin de saison entre Karl-Anthony Towns, Alperen Şengün, LeBron, Julius Randle, Stephen Curry, Joel Embiid. Bon, lui, ça fait un peu plus longtemps. Le plus récent,
Mitchell Robinson.
Ah oui, Onyx, bien sûr.
Kawhi
Leonard.
Oui.
Karl-Anthony Towns, déchirure du ménisque, il sera réévalué le 9 avril, juste avant la fin de la saison régulière. Ça sera dans un mois. La fin de la saison régulière, c'est le 14 avril, donc à quelques jours des play-offs.
Play-in pour le coup.
Play-in et les play-offs, c'est le 20 avril. Ouais, c'est ouais. Ça. Et les play-offs le 20 avril.
Donc sa participation devrait être confirmée. Si, en tout cas, si la rééducation là tout de suite se passe bien, normalement, il sera là pour le premier tour.
Mais c'est un gros risque quand même de faire revenir un joueur. Enfin, déchirure du ménisque, ça peut être une absence beaucoup plus longue que simplement un mois et demi.
Comment ça se passe.
C'est la douleur qui donnera le signal.
Mais oui, la taille de la déchirure. Et voilà,
c'est la douleur qui rappellera à l'ordre. C'est un grand corps, il est assez lourd, il a une course lourde. On verra, mais je le mets pas dans les favoris, moi, pour bien revenir, parce que c'est un joueur lourd.
Ouais, voilà, donc,
et enchaîner les matchs. Et
puis bêtement, le genou, le ménis, c'est au milieu de la jambe.
Ouais. Donc, ah oui,
oui.
c'est pas très
bonne analyse.
Et voilà, écoutez, docteur Jaco.
on continue par qui Kawhi.
Ah, bah c'est la plus récente, mais là on n'a pas d'infos sur Kawhi.
Ouais.
On sait pas.
Ça. On saura prochainement.
Le problème, c'est qu'avec Kawhi, non. Kawhi, on sait jamais rien.
Ouais, voilà, ça dans 6 mois.
Et quand, ouais. J'entends parler du dos, c'est certainement là. C'est-à-dire dans le mystère, oui, parce qu'une douleur au dos, elle peut venir de tellement de choses. Sur le genou, les images arrivent à déterminer. Il y a une jurisprudence incroyable pendant ces blessures avec Kawhi, qui reste d'un calme olympien, mais qui des fois disparaît, tu le revois 6 mois après. Donc là, c'est l'incertitude totale. Steph Curry, tu sais que bon, il a été absent, hop, il revient contre les Lakers.
Il revient dimanche contre les Lakers.
Voilà, c'est en place tout ça, mais bon, on verra. Mais Kawhi, moi, ça me chiffonne un peu.
Non, mais surtout les blessures au dos, en fait, c'est très difficile à régler.
Ou alors s'il revient
très longtemps,
s'il
et des fois,
revient
ça
directement, ça veut dire, un, qu'il a vraiment très envie, et deux, que c'est pas trop grave, et voilà.
Alperen Şengün, pour lui, c'est beaucoup moins grave que prévu, mais fin de saison, a priori, quand même, pour le Turc.
L'image est folle.
Ouais, ouais.
L'image est incroyable. Moi, je pensais qu'elle était finie.
Il est costaud.
Ah ouais, apparemment.
Il est costaud du bas des pattes. Il a vraiment une force. Il a des bonnes jambes. C'est un mec qui est tout en buste en plus, et avec un grand coup. Mais enfin, en bas, il est très très véloce. Il a des d'excellents appuis, etc. Et ça l'a sauvé, parce qu'alors l'image, comme dit Xam, on dirait qu'il est sorti de Kitea, lui. C'est...
Faut tout remettre à l'endroit. Mais non, ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si grave que ça. La saison est très probablement terminée. Je vois pas pourquoi
Houston
tu refais jouer.
De toute façon, voilà. les play-ins, ça sera trop compliqué à aller chercher, sûrement.
Donc, qu'ils reviennent à 100%, et ce sera le cas pour le début de la saison prochaine. C'est déjà une incroyablement bonne nouvelle, hein, franchement. Maintenant, le faire rejouer en fin de saison, donc je vois pas du tout l'intérêt.
C'est peut-être une nouvelle moyenne pour l'équipe de Turquie aussi. Je sais pas s'ils sont dans un TQO. Oui, l'essentiel, c'est qu'ils soient pas foutus les croisés, quoi. On va parler clairement. Il faut prendre soin de lui. Si ça revient très vite, il est jeune, il est costaud. La cheville, elle a quand même fait une certaine... elle a bien plié. Le genou, ils disent contusion. Donc ça veut bien dire que ça a bougé. Puisqu'il n'y a pas eu de contact. Donc c'est qu'à l'intérieur, ça a bougé sérieux. Il s'en est sorti.
Pour LeBron James, on parlait de Kawhi à Los Angeles. LeBron, toujours gêné par sa cheville, qui rate des matchs, qui...
Enfin... Il a dit l'autre jour. Il a dit c'est la vieillerie, quoi.
Ouais, bah oui, voilà. Bien sûr. Mais il est en meilleure forme que je le serais à 39 ans, je pense.
Mais je te rassure aussi. Par contre, je suis pas sûr que s'il se fasse pas opérer après sa carrière, il marche mieux que toi à 50.
Ça, c'est possible. Mais ça, c'est souvent le problème des anciens sportifs, malheureusement. Mais c'est vrai que LeBron, c'est un peu l'inconnu à Los Angeles, parce qu'on sait jamais vraiment quand est-ce qu'on peut compter sur lui à 100%. Et est-ce que d'ailleurs, il est vraiment à 100% quand il joue, c'est pas certain.
En tout cas, il donne tout. Il donne tout, et à l'arrivée, il doit se retrouver comme ça. Est-ce qu'il n'a pas donné trop, finalement, aussi, à certains moments,
le dernier match. Cette saison, quand même. On parlait de le limiter en minutes. C'est en début de saison, ce que disaient les Lakers. Au final, ce n'est pas du tout le cas. Et chaque année, c'est la même chose.
Il va falloir qu'ils arrêtent tous. Il ne faut pas l'annoncer.
Ouais.
Tu dis à LeBron, je vais limiter tes minutes, tu lui prends la tête, 3 semaines après, tu prends retour plein fer, il dit, mais moi, pourquoi on me limite mes 1 minute, en gros ? Donc, en gros, de quoi je me mêle ? Voilà, c'est tout. Et oui, peut-être qu'il a trop joué, mais c'est pas nouveau, c'est depuis 2003. Donc, voilà.
Il a qu'à pas aller en finale tous les ans.
Qu'il ait des cartilages, qu'il soit en vis-à-vis, qu'il ait des douleurs. En plus, c'est un mec qui s'entraîne, qui a une grosse carcasse. Enfin, je vois pas, je sais pas, hein, y a d'autres exemples, hein, dans le sport. C'est dur, hein. Plus t'avances, c'est dur. Surtout dans des postes où il y a de la vitesse.
Et l'Enix, alors, Jacques?
Ouais.
Julius Randle, on ne sait pas s'il reviendra. Luxation de l'épaule, il y a c'était début février, il me semble. Non, 27 janvier.
Mais ça va savoir assez vite, Julius Randle. Ouais. Ils sont dans leur timing. Ils ne savent pas non plus, eux, et lui non plus, qui a repris une forme de préparation physique, de course, etc., de tout, s'il va devoir se faire opérer de l'épaule. S'il ne se fait pas opérer de l'épaule et qu'il revient à un bon niveau, allez, il faudra 3 semaines, 1 mois. Ce sera plein milieu des playoffs. Bon, ils vont faire sans lui jusque-là. Mais récupérer OG Anunoby a été une bonne chose. Ils ont mis une bonne rouste aux Sixers hier. D'ailleurs, les Sixers ont mis le même nombre de points que lors de leur victoire contre les Knicks. Simplement, ils en ont pris 33 de plus. Mais voilà, quoi,
c'est super frustrant pour les Knicks, quand même, cette situation, parce que encore ils se maintiennent quand même à la 4e place de la conférence.
Parce qu'ils ont pris Burks et Bogdanovic, même si Bogdanovic hier soir il passe à travers, qui sont des bons joueurs, parce que le petit Brunson est absolument énorme, et j'espère qu'il sera dans un des deux premiers 5 All-NBA cette année, parce qu'il fait vraiment des choses incroyables. Que Josh Hart te fait un triple double dans 25 minutes hier, 27 je crois. Voilà, ça tourne, ils ont une méthode, tout le monde est bon. Miles McBride entre, il est bon. Ils sont tous bons, Achua n'a jamais été un joueur de cette qualité. Ils ont leurs limites, Xav, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je les trouve...
Vaillant, quoi. Ouais. Une équipe à la Thibodeau.
Et l'autre qui shoot dans tous les sens, Di Vincenzo.
Ouais, on verra ce que ça va donner tout ça, mais sans Randle, évidemment, ça limite les espoirs les plus fous, c'est-à-dire de les voir au moins
finale de conf,
ouais. Ça semble extrêmement compliqué.
Ça semble leur tendre les bras, et on peut imaginer qui va finir premier.
On peut l'imaginer, ouais, assez facilement. Par contre, deuxième, on va de plus en plus vers l'Ohio, hein, et de moins en moins vers le Wisconsin.
Oui, ils prennent de plein fer leur trip à l'ouest, les Bucks, et puis si on y revient, là aussi, c'est une blessure que tout le monde a oubliée, mais cette équipe-là, sans Middleton, elle n'a pas le niveau d'un contender.
Absolument.
C'est tout simple.
Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, cette blessure de Middleton. Non.
Mais il est tellement absent, Middleton, ils sont pas champions tellement longtemps. Oui, voilà, c'est ça.
L'importance de joueur, c'est monstrueux.
T'as des blessures, alors là, en ce moment, personne parle de blessures. Peut-être qu'ils le mettent à l'herbage. Porzingis vient de manquer 3 matchs. Ouais.
On n'a pas d'infos sur ça.
Alors là, Tatum s'occupe de tout. Il n'y avait même pas de Jalen Brown hier. Bon, ils vont gagner à Utah.
Après, vu l'avance qu'ils ont, Boston, on peut se permettre de mettre quelques jours au frigo.
C'est ce que je te dis.
Par prévention.
C'est ce que je te dis. Et s'ils le font maintenant, c'est pour qu'il n'y ait pas une rupture. Parce que regarde, on arrive dimanche à Exav, poum, on apprend... Kawhi et Paul George font pas le back-to-back, ils se maintiennent. Je sais pas où il était assis pendant le match, mais c'est au match d'après qu'il se pète le dos. Et pourtant, il a pas fait le back-to-back en 22 heures. Mmh. Ce qui est une inanité, ouais. Faire jouer les mecs en 22 heures pour des raisons de salle, d'enchaînement et tout. C'est alors là, quand même, erreur.
Tu m'étonnes qu'il se casse du Staples Center.
Bah,
la CryptoDome Arena. C'est plus possible, ça.
C'est bizarre que les Lakers prennent pas cet horaire.
Oui, ça, c'est marrant. C'est rarement les Lakers qui sont désavantagés dans cette histoire.
Ça peut leur arriver, mais c'est relativement rare. Et quand c'est les Lakers qui jouent à 21h30 heure française, c'est généralement parce qu'il y a les Kings qui jouent derrière. Mais les Kings de hockey, hein, bien sûr, l'équipe de Los Angeles Kings. Ça peut arriver aussi.
L'équipe de LeBron James.
Non. Il peut y finir que lui, il peut y passer un an ou deux, hein, celui-là, très bien, portera bien le maillot. Donc ouais, ils font bien de déménager les Clippers, mais il y a quand même beaucoup de questions là en ce moment avec les blessures, et c'est vrai que sur la saison, elle était globalement tranquille. On ne sait pas du tout.
Parce que alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ils ont été gagnés un ou deux matchs, là, dont un Onyx, mais Philadelphie, ça peut être toboggan aussi, parce que Indiana, parce que les équipes derrière, elles gagnent des matchs.
Ouais, mais ils sont pas écroulés quand même, les Sixers, contrairement à ce qu'on aurait pu penser.
Non, mais ça peut encore arriver.
Ça peut encore arriver, reste
sans Embiid, tu sais combien ils sont ?
Bah, ils sont pas... Non,
à
j'ai
10
pas
et 20.
Ouais, c'est ça. Je savais que c'était négatif, mais
c'est
pas
un parcours de play-inable.
Non, pas du tout.
Et Bénédicte Mathurin blessé aussi.
Bénédicte Mathurin
aussi. Alors, malgré toute l'affection qu'on a pour lui, ils ont de quoi le remplacer.
Oui, j'ai regardé ça hier soir.
Parce que Bruce Brown, tout ça...
Alors, Bruce Brown, il est à Toronto maintenant, mais...
Pardon.
Bruce Brown, oui.
Je parlais de... Je parlais, tu sais, pendant...
Nesmith, tous ces gars-là.
Shepard, qui vient de nulle part, qui peut avoir un petit peu de temps de jeu aussi. Et j'ai oublié l'autre, évidemment, Nembhard, bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que ça ressemble un petit peu à tout ça. Mais en tout cas, ce qu'ils ont fait face à OKC, waouh.
Ils ont surtout dans ce match-là, ils ont mis le d'entrée la pression. Voilà. Et puis notre... on n'en a pas trop parlé, mais bon, les Spurs sont à 14 victoires. Il reste que 17, 18, 19 matchs par là.
Ouais, c'est ça.
Ce serait bien de finir à 20. Voilà, c'est une période où les équipes, tu peux les attraper aux oreilles, où que tu sois. Memphis est en train de montrer qu'on peut inventer des joueurs NBA.
Oh là là, oui.
Voilà, et il faut rendre hommage aux structures qui sont capables de faire ça. Même si ça paraît anecdotique, moi, ce que fait Memphis en ce moment, c'est Taylor Jenkins, hein, je ne dis pas de bêtises, c'est très, 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 très bien.
C'est terminé pour aujourd'hui. Messieurs, merci pour votre présence ici. Je vous souhaite une très, très bonne émission et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Ciao tout le monde.
Salut.
Ciao.